9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre silhouette ce matin avec mon invité, le docteur Laurence Plumet. Bonjour docteur.
Bonjour Philippe.
J'aime quand vous vous arrêtez chez nous, ce qui est toute une entreprise pour venir jusqu'à chez nous, mais vous êtes là et en direct, vous êtes médecin nutritionniste, vous pratiquez dans des hôpitaux hein, à Paris, et vous enseignez également la nutrition à l'école de diététique de Paris, et vous avez inventé, on va dire, une nouvelle spécialité, on appelle ça la napsothérapie. En quoi cela consiste-t-il, la napsothérapie?
Alors, la napsothérapie, c'est un nouveau métier, comme vous l'avez dit, je l'ai créé, parce qu'il répond à une vraie demande. Un Français sur deux a des problèmes de poids, ne dort pas assez, ne bouge pas assez. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? On attend qu'ils tombent malades et qu'ils aillent voir un médecin après? Non. Il faut bien évidemment s'en occuper, faire de la prévention et accompagner ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai créé la napsothérapie. Napso, c'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le sommeil. C'est une formation qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément médecins, hein, donc c'est accessible à tous.
Mais qui sont dans le domaine médical ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout, pas forcément.
Ce sont des gens qui en auront le bol du métier qu'ils font, qui ont envie de changer, qui ont envie de s'investir dans l'aide à la personne, vous voyez, dans l'accompagnement personnel, qui suivent une formation de 9 mois à distance et qui vont apprendre à auditer, identifier les erreurs de comportement des gens dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil pour leur donner des conseils judicieux, spécifiques, adaptés. Donc pour ça, il faut acquérir une bonne somme de connaissances, il faut avoir de l'empathie, il faut aimer aider les gens, être dans l'écoute, et puis savoir les conseiller et les accompagner. Et donc c'est un métier vraiment d'avenir. Il y a déjà d'ailleurs une centaine de napsothérapeutes en France, et donc je le répète, c'est une formation accessible à tous et qui est délivré par mon école EPM Nutrition.
Voilà, ceux qui nous écoutent en tout cas sont passionnés par la santé,
oui,
par la prévention aussi beaucoup.
Bien sûr, hein,
c'est vraiment un peu notre ADN,
oui,
l'ADN de l'émission. Donc effectivement, ça se fait en présentiel ou ça se fait en distanciel, comment dire ?
En distanciel.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux.
C'est du e-learning.
Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des visioconférences, il y a des cours à maîtriser, il y a des examens mensuels, il y a un encadrement de ma part et de la part de toute l'équipe scientifique qui m'encadre, parce que c'est une formation qui est donnée par des médecins. Donc on est sur du solide, de l'académique, du démontré, du scientifique. C'est pas une formation comme on en voit tant partout. Donc c'est un métier.
On ne vous forme pas une demi-heure en naturopathie.
Oh non, au moins 360 heures de formation sur 9 mois.
D'accord.
4 jours de travail par mois.
Et alors ça se passe sous forme de rentrée scolaire? On peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année?
Alors le prochain départ de promotion sera en septembre. Donc c'est le moment de vous inscrire,
voilà,
si vous le souhaitez.
Et si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on procède?
Alors, on va sur le site d'accueil de EPM Nutrition, grand E, grand P, grand M, ça veut dire enseignement pratique et médical, EPM Nutrition. Et sur la page d'accueil, on a toutes les informations qu'il faut pour découvrir ce métier, les conditions de la formation, le bulletin d'inscription, puis surtout mon numéro de téléphone pour m'appeler parce que j'accepte les élèves, mais au cas par cas.
D'accord, bien. On vous mettra tous les descriptifs sous la vidéo de l'émission.
Ouais. Et il y aura, pardonnez-moi Philippe, bientôt un nouveau site hein, qui est en cours d'élaboration sur ce nouveau métier qui est la napsothérapie. Voilà.
Alors vous avez écrit des best-sellers concernant la nutrition, le monde merveilleux du gras chez Roll, et puis un livre qui s'appelle « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport et ni les légumes chez Roll ». Bien justement, les légumes, on va en parler ce matin puisque l'émission est centrée sur le goût et ses subtilités. C'est intéressant parce qu'on s'intéressait assez peu au goût et à l'odorat jusqu'à la Covid. Et puis là, ceux qui l'ont perdu se sont dit « Tiens, il y a un truc qui va pas dans... Hein. » C'est quand même la base, hein, le goût et l'odorat.
Tout
et on découvre
fait
que ça fonctionne ensemble, finalement.
Ah, mais absolument. Et c'est en ayant perdu le goût et l'odorat que les gens réalisent combien il était important d'en avoir un. En fait, le goût, quand on parle du goût, on a l'impression que tout se passe dans la bouche. Et en fait, 75% du goût se passe dans le nez. C'est grâce à notre nez que nous sentons le goût de l'aliment. Et il n'y en a que 25% qui se font au niveau de la bouche. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce que dans notre nez, nous avons une muqueuse qui est équipée à peu près de 400 récepteurs olfactifs. Et ces récepteurs, quand ils sont stimulés par différentes odeurs, vont nous permettre de pouvoir discriminer, tenez-vous bien, 1000 milliards d'odeurs différentes. C'est vous dire combien nous avons un nez sensible. Quant à ce qui se passe dans notre bouche, tout le monde a entendu parler des papilles et
les
des bourgeons
de goût. Les papilles gustatives.
Voilà, ces charmantes petites papilles qui sont dispersées finalement sur notre langue, hein, parmi tous les petits poils de, de la langue, des petites aspérités.
On les voit ou pas?
Oui, au microscope, on les voit.
Ah, on les voit les papilles.
Oui, on les voit. Et alors, elles sont pleines de bourgeons du goût, et dans ces bourgeons du goût, il y a plein de cellules sensorielles. Et figurez-vous que dans une bouche, à la surface d'une langue, il y a entre 1,5 et 2 millions de cellules sensorielles. Chaque cellule, c'est ça, c'est extraordinaire, vous savez, l'homme est merveilleusement fait, enfin l'homme avec un grand H, hein, homme et femme.
Chaque cellule, l'espèce humaine.
Voilà. Ouais. Chaque cellule est équipée d'une trentaine de récepteurs. Il y a 25 récepteurs à l'amertume, un récepteur au goût sucré, un récepteur au goût salé, un récepteur au goût acide, un récepteur au goût amer et un récepteur à l'umami, qui est le glutamate de sodium. Voilà. Et donc.
Alors, glutamate de sodium, c'est quoi?
Le glutamate de sodium, c'est un additif, un condiment, quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la gastronomie asiatique. Et qui donne ce goût très particulier qu'on a baptisé le goût umami. Et donc, il y a un récepteur dans nos cellules sensorielles qui est spécifique du goût umami. Autrement dit, avec nos 2 millions de cellules sensorielles dispersées dans la bouche, nous avons énormément de récepteurs au goût sucré, salé, acide, amer et umami. Voilà. Mais je dois dire que nous sommes particulièrement équipés pour sentir l'amertume. Nous avons énormément de récepteurs à l'amertume.
Alors, il faut expliquer pourquoi.
Parce que, comme nous sommes des omnivores, nous mangeons des végétaux. Or, dans le monde végétal, il y a des poisons. La plupart des poisons viennent du monde végétal. Et donc, plus on mange des végétaux, comme espèce, que ce soit les omnivores, voire encore plus avec les herbivores, plus nous devons être équipés de récepteurs nous permettant de discriminer à des seuils très très bas la présence de poisons végétaux au goût amer. C'est pour ça que nos cellules sensorielles sont équipées d'autant de récepteurs à l'amertume. Et que nous sommes très très sensibles à l'amertume. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons du mal à aimer les légumes, parce que les légumes ont souvent un goût un peu amer. Alors que le goût sucré, ça, on aime.
Oui.
Nous n'avons qu'un seul récepteur au goût sucré à la surface de chacune de nos 2 millions de cellules sensorielles.
Mais au goût salé aussi.
Au goût salé aussi. Alors pourquoi nous n'avons qu'un seul récepteur? Avec plein de sites différents, et on verra tout à l'heure pourquoi. Pourquoi nous n'avons qu'un seul récepteur et pourquoi nous sommes finalement peu sensibles au goût sucré? Parce que quand on est peu sensible à quelque chose, il faut en consommer beaucoup avant d'être écœuré. Voyez. Or, notre corps a besoin de glucides, de glucose, ce glucose qui est vecteur du goût sucré. Si nous étions hyper sensibles au goût sucré, nous en mangerions trop peu. Et ceci ne satisferait pas notre corps humain qui en a besoin de quantités importantes pour assurer ses besoins. C'est le principal carburant cellulaire. C'est pour ça que nous avons une forte appétence au goût sucré, mais que nous le dépistons, ce goût sucré, qu'à partir de 3 à 4 grammes par litre dans l'eau de boisson. Si nous le dépistions beaucoup plus tôt, on serait très vite écœuré et on en mangerait beaucoup moins. Et donc notre corps ne serait pas très content parce qu'il manquerait de ce carburant. Vous voyez comme la nature est bien faite. Et vous voyez pourquoi, dès la naissance finalement, le bébé, à la surface de sa langue, si on lui dépose une petite goutte d'eau sucrée, il est ravi, il vous fait un sourire d'ange. Par contre, si vous déposez une petite goutte d'une substance amère sur la surface de sa langue, tout de suite, il vous fait une grimace épouvantable. Donc nous sommes tous...
Sauf si sa mère a mangé beaucoup d'asperges et d'artichauts pendant la grossesse. Alors, et de navets.
Ah, bravo Philippe, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison parce que finalement l'initiation au goût, ça commence pendant la grossesse. Car le bébé, il avale du liquide amniotique. Et ce liquide amniotique, il véhicule les arômes de ce que sa mère va manger en quantité importante et qui a un goût prononcé. Et ça, on le voit très bien dans les expériences. Une femme qui mange par exemple très épicé pendant sa grossesse aura un enfant qui finalement va apprécier la cuisine épicée de sa mère parce que pendant la grossesse, dans le liquide amniotique, il aurait été habitué à goûter cette saveur épicée, voyez. Il en est de même de l'ail, de l'oignon et de choses comme ça. Donc c'est intéressant de savoir ce à quoi on veut habituer son bébé par la suite. Si elle mange beaucoup de légumes, bah, probablement qu'il va aimer l'amertume. Peut-être que ça en fera un amateur de légumes par la suite. On peut toujours rêver, mais pourquoi pas
manger des brocolis, des choux de Bruxelles
pendant votre grossesse.
Il y a d'autres inconforts, mais voilà, vous aurez un bébé qui aime
pas
ça.
Chez tous.
Vous pouvez faire un test d'ailleurs, hein, pour vérifier ce qu'est en train de dire Laurence Plumet ce matin, c'est manger en vous bouchant le nez, en vous pinçant le nez.
Absolument.
Vous verrez que le goût de ce que vous mangez va disparaître.
D'ailleurs, et c'est d'ailleurs une astuce que font les enfants, hein, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils se bouchent le nez pour l'avaler. Voilà, ceci illustre bien le fait que le goût d'un aliment, ça vient pour 75% dans le nez et pour 25% dans la bouche.
Mais ce qui veut dire que finalement, notre bouche et notre nez sont reliés de l'intérieur.
Absolument. D'ailleurs, quand vous avalez un aliment, il y a ce qu'on appelle la voie rétronasale. C'est-à-dire qu'il y a des molécules volatiles qui arrivent au fond de votre gorge et qui vont remonter dans votre nez par l'arrière. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la voie rétronasale. Donc quand on dit que le goût d'un aliment vient du nez, c'est à la fois par l'avant, quand on sent l'aliment, mais c'est aussi par l'arrière, hein, avec l'arrivée de ces molécules odorantes par l'arrière-gorge qui remontent dans le nez. Et d'ailleurs, vous voyez les Asiatiques, quand ils mangent, ils rapprochent le bol de riz ou de nouilles de leur bouche, ce qui fait qu'en même temps qu'ils avalent, eh bien, ils sentent. Donc, ils activent les deux voies en même temps. Donc, ils sentent finalement beaucoup mieux l'aliment qu'ils mangent.
Mais ils font ce bruit, vous remarquerez.
Oui. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous avalez de l'air. Et cet air va véhiculer les molécules volatiles de votre aliment. Et comme cet air va être chargé de molécules odorantes de l'aliment, eh bien cet air va passer par voie rétronasale et donc va activer l'olfaction. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on boit une boisson très très froide, on va la sentir beaucoup mieux avec une paille que quand on la boit. Si vous buvez une boisson pétillante...
Ouais, vous allez boire, c'est bien.
Quelle horreur. Ah non, je suis toujours très à cheval sur l'orthographe et la prononciation. Si vous buvez une boisson pétillante, très sucrée, le fait qu'elle soit glacée, ça anesthésie vos papilles gustatives. Donc vous ne vous rendez absolument pas compte qu'elle contient 20 morceaux de sucre au litre. Ça vous paraît rafraîchissant, mais qu'est-ce que vous avalez comme quantité de sucre ? Si cette boisson avait perdu sa pétillance et si elle était à température ambiante, vous la recracheriez tout de suite en disant « Mon Dieu, mais que c'est sucré !» Donc en fait, quand vous buvez une boisson glacée, pétillante, ça vous fait très plaisir, mais quand vous la savourez avec une paille, vous avalez de l'air en même temps, les petites quantités d'eau arrive au contact de votre langue qui est chaude, donc ça évapore et ça réchauffe l'eau, le liquide, ça l'évapore, ça évacue donc ces molécules odorantes, plus l'air que vous aspirez avec la paille, et donc vous ressentez encore plus le goût de la boisson. Donc, vous pouvez boire une boisson fraîche avec une paille. Je vous déconseille de le faire avec la soupe, parce que de toute façon, la soupe, elle est chaude, donc il y a déjà beaucoup de molécules odorantes qui passent dans le nez avec la soupe. Mais la boisson fraîche, ça vaut le coup.
Mais les goûteurs professionnels, par exemple, de vin ou dans les concours de cuisine, utilisent cette rétro-olfaction. C'est même ce qui permet de détecter les saveurs, les arômes d'un vin ou d'un plat.
Tout à fait. Alors eux, ils utilisent tous leurs sens. D'abord, vous remarquez qu'ils sentent. Ils mettent le nez dans le verre, pour sentir l'odeur du vin. Donc déjà, ils activent. Ensuite, ils goûtent. Et en goûtant, effectivement, ils aspirent de l'air. Et ils activent cette voie rétronasale, ce qui fait qu'ils font tout fonctionner au maximum pour sentir toutes les subtilités du vin. Toutefois, ils peuvent se faire abuser par la couleur du vin. Je vais vous raconter une expérience.
Une anecdote, géniale.
Extraordinaire. Vous faites savourer un vin blanc à un sommelier. Très bien. Donc, il va reconnaître toutes les notes, les décrire et utiliser un vocabulaire spécifique
au vin blanc.
La lecture du vin blanc. Ouais. Vous mettez maintenant, à son insu, un colorant rouge, évidemment neutre en goût, dans ce vin blanc. Rebelote, vous le lui faites déguster. Eh bien, il va changer complètement de vocabulaire. Il va utiliser le vocabulaire de la dégustation du vin rouge. Autrement dit, dans notre cerveau, la couleur joue également beaucoup et notre cerveau est habitué à faire une analogie entre la couleur et le goût. Autre expérience aussi.
Mais ce qui veut dire que ce qu'on voit influence le goût qu'on va en percevoir. Oui. C'est ça qui est terrible.
Déjà, quand vous voyez quelque chose, vous êtes préparé à ressentir le goût de cet aliment.
Ouais.
Et oui, par exemple, vous prenez du sirop à la fraise dans de l'eau. Le rouge, pour le cerveau, ça évoque le goût sucré. Parce qu'il a été habitué, sirop de fraise égale goût sucré. Sirop de menthe égale fraîcheur. Jus de citron, jaune, égale acide.
Acidité,
Voilà. Donc pour le cerveau, tout est rangé dans des cases. Si maintenant, vous voulez faire boire une boisson peu sucrée à un enfant, vous lui mettez très très peu de sirop de fraise dans son eau et vous rajoutez un colorant tout à fait naturel, rouge, inodore et sans saveur, dedans. Et vous lui servez une boisson très très rouge, voilà, mais au final très peu sucrée. Mais il va trouver ça délicieux et aussi sucré que si vous aviez mis beaucoup de sirop.
On l'a vu quand on a été habitué, hein, notre génération, à ce que la menthe, en tout cas le sirop de menthe, soit vert. Quand il est devenu blanc...
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas fonctionné.
Absolument.
Parce que notre cerveau...
D'ailleurs, il y a tout un marketing, hein, autour de la couleur des aliments, hein. Pareil avec le jambon, hein. Si vous servez aux gens un jambon
gris,
ça marche pas. Il lui faut son jambon rose au consommateur.
Bien, alors on parle du goût ce matin.
Oui, on revient au goût.
Non, on va revenir au goût. On a une heure pour parler du goût, comment ça fonctionne. C'est important, le goût, puisqu'effectivement, pour ceux qui veulent entamer aussi une démarche de perte de poids, faut manger avec du goût. Et ça, c'est important, parce que ça pimpe vos papilles. Docteur Laurence Plumet est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de goût, du goût et du dégoût avec mon invité ce matin, le docteur Laurence Plumet. Il y a beaucoup de... C'est passionnant, finalement, ces histoires de goût. Hein. Alors, on va parler du piment, par exemple. Pourquoi est-ce que le piment pique ? Est-ce qu'on sait ça ?
Oui, parce que dans les piments, parce qu'il y a, différents types de piments, il y a une molécule qui s'appelle la capsaïcine. Voilà. Cette molécule a la capacité de se fixer sur les récepteurs de cellules nerveuses que nous avons dans notre bouche et qui véhiculent le signal de la chaleur et de la douleur. Mmh. Bien. Donc, quand on prend un piment faiblement riche, enfin disons pauvre en capsaïcine, ça pique un peu, mais pas plus. Ça brûle un peu, mais pas plus. Par contre, il existe une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville, qui classe la force, hein, du pouvoir brûlant du piment, du plus faible au plus fort.
Alors, le plus faible, c'est le poivron.
Exactement. Et même le paprika, hein, qui est du poivron en poudre. Donc, et puis le plus fort, il peut vous faire perdre connaissance. Alors, je voudrais préciser une
Carolina
chose.
Carolina Reaper.
Oui. On trompe le cerveau. Parce que, en fait, on active les voies nerveuses qui transmettent au cerveau le signal de la chaleur et de la douleur. Mais en aucun cas, il n'y a réellement une brûlure dans la bouche. La bouche, elle reste normale. Il n'y a pas de brûlure dans la bouche. Simplement, on véhicule, cette molécule active ces détecteurs de chaleur et de douleur. Donc, il y a un message nerveux qui passe au cerveau, mais dans la bouche, il n'y a pas de brûlure, tout simplement. Alors, cette capsaïcine, si par malheur, on avale à notre insu un piment qui est trop fort, il y a un remède à ça. Elle est soluble dans le gras. Donc il suffit de boire un verre de lait entier, par exemple, ou de manger du fromage, ou de prendre quelque chose de gras, par exemple une cuillère à café d'huile ou d'huile d'olive, ou quelque chose qui est gras, pour que cette capsaïcine s'y dilue et qu'elle soit beaucoup moins active sur ses récepteurs.
Ça ne sert à rien de boire de l'eau pour éteindre l'incendie, en fait.
Pas du tout, ça ne fera rien. Il faut du gras.
On est très inégaux d'ailleurs, hein, par rapport à la perception de la brûlure dans la bouche. Il y a des gens qui peuvent manger des piments, alors là, tranquille.
Oui.
Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas du tout.
Tout à fait.
Qui appellent les pompiers tout de suite.
Oui, oui, absolument. Alors d'abord, il y a une espèce de culturation de ça. Il y a une habitude qui est prise. Les gens qui sont habitués à manger pimenté saturent, si vous voulez, leurs récepteurs. Et ce qui fait qu'il en faut de plus en plus pour que les récepteurs soient actifs. Vous voyez, parce qu'ils les ont saturés.
Ouais.
Alors que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger pimenté, il a des récepteurs qui sont tout neufs, tout vierges, et qui vont immédiatement réagir avec des petites quantités de capsaïcine. Mmh. Et donc cette personne va très vite avoir l'impression de ouf, hein, d'avoir très très chaud et d'avoir mal dans la bouche, hein, cette sensation de douleur. Mais vous avez une remarque très intelligente, mon cher Philippe, sur la notion
j'ai bien fait de vous inviter.
De sensibilité. Nous avons des sensibilités différentes à tout, au sel, au sucre, à l'acide, à l'amer. Pourquoi ? Parce que nous avons en fait des détecteurs et ces détecteurs sont plus ou moins capables de fixer beaucoup de molécules. Quelqu'un qui par exemple est hypersensible au salé ou à l'amer, c'est quelqu'un qui va très vite saturer ses récepteurs et qui va se dire, ouh là là, avec une très faible quantité, il est vite écœuré. Voilà. Par contre, quelqu'un qui est peu sensible, il a des récepteurs qui sont ouverts, qui sont actifs, et il faut beaucoup, beaucoup de molécules pour les saturer. Et la personne devra manger beaucoup, beaucoup de ces éléments avant de se sentir écœuré. Donc, finalement, dans la vie, il vaut mieux être hypersensible à tout. Parce que quand on est hypersensible au goût sucré, on est capable de s'arrêter au bout de deux bouchées d'un gâteau. Quand on est sensible à l'amer ou à l'acide, on s'arrête très très vite aussi. Vous voyez, donc on contrôle beaucoup mieux ce que l'on mange quand on est hypersensible. Alors vous allez me dire, quelle est la part de l'inné et de l'acquis ? Alors, bien sûr, vous savez, c'est comme les sportifs. C'est bien parce que je fais les questions en même temps que les réponses.
En fait, si vous appuyez sur un bouton. Donc, pour les sportifs.
Voilà, c'est comme pour les sportifs ou les musiciens. À l'origine, on a un capital de cellules. Voilà, il y en a qui ont beaucoup de cellules sensorielles. Et ça, c'est la génétique. Hein. Et il y en a d'autres qui en ont peu. Bon. Mais après, rien n'est jamais perdu parce que on s'éduque, on peut sensibiliser, augmenter son capital de sensorialité. D'ailleurs, il faut pas penser que les sommeliers ou les nés pour le parfum soient des gens. Hop, ils sont réveillés un jour, nez, point barre. Pas du tout. Tous les jours, ils travaillent énormément. Ils éduquent leur nez, ils éduquent leur goût. Ils travaillent avec des goûts et des odeurs différentes de façon à affiner. Donc, mon conseil, et ça commence dès la naissance, eh bien, il faut sentir, il faut goûter, il faut manger et sentir des goûts et des odeurs extrêmement différents. Bref. Donc, il faut avoir une alimentation variée de façon à s'initier à des goûts et à des odeurs différentes. Et plus on fait travailler ces récepteurs, plus on les rend sensibles. Voilà. Et les gens qui sont très vite écœurés, autrement dit, très souvent, les enfants qui sont difficiles et qui font l'amour en disant « Ah, j'aime pas !» Ben, très souvent, ce sont des enfants qui sont hyper réceptifs. Ça en fera plus tard probablement des goûteurs, vous voyez, ou des nez.
Et là, les parents ont le réflexe de les forcer, en fait.
Oui, alors, c'est l'éducation au goût. C'est-à-dire qu'il faut jamais enfermer un enfant dans le steak haché, les pâtes, le poulet et les frites. C'est horrible. On est en train d'atrophier, au contraire, tout ce capital sensoriel. Il faut le développer, au contraire. Il faut proposer à l'enfant énormément de légumes différents, de fruits différents, de recettes et de plats variés, travailler avec des épices différentes, de façon à éveiller ce capital de cellules sensorielles.
On va revenir à notre piment. Avec le Covid, il y a ceux qui ont perdu le goût et l'odorat. Qu'est-ce qui se passe quand on a perdu ces deux sens et qu'on ingère un piment très fort?
Alors, on est toujours capable de sentir le goût du piment. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas par les papilles gustatives classiques et ça ne passe pas par le nez non plus. Ça passe par un nerf totalement différent qui est le nerf trijumeau qui est connecté également au cerveau. Donc tout ce qui est... Alors on a parlé tout à l'heure du sucré, du salé, de l'acide, de l'amer et de l'umami.
Papilles.
Ça c'est ce qui se passe dans la bouche et dans le nez. Mais tout ce qui est astringence, tout ce qui est pétillance, tout ce qui est épice, tout ce qui est goût métallique, tout ça, ça passe par un autre nerf qui s'appelle le nerf trijumeau qui est également... qui trouve toutes ses racines à l'intérieur de la bouche, mais plutôt au niveau des joues, hein, et puis qui communique aussi avec le cerveau. Donc, toutes ces sensations-là, eh bien, les gens qui ont le nez bouché ou qui ont perdu le goût avec le Covid conservent cette capacité de sentir la pétillance, de sentir l'astringence et de sentir le goût épicé ou métallique ou bicarbonaté, d'ailleurs, d'un aliment. Voilà, parce que ça passe par une voie différente. Et l'ammoniac. Hein, et l'ammoniac. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit « Ah là là, je suis malade, j'ai attrapé le Covid », l'enfant qui dit ça pour ne pas aller à l'école, très bien mon petit chéri, on fait un test tout simple, on lui fait sentir de l'ammoniac. S'il dit également « Ah non, 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 je sens pas non plus, je suis vraiment malade », c'est qu'il fabule, parce que quand on a le Covid, on continue de sentir l'ammoniac, ça passe par une voie différente.
Le test de l'ammoniac.
Le test de l'ammoniac.
Pour revenir sur le pétillant des choses et l'importance des pétillants, pareil, le pétillant, c'est quelque chose qui a la possibilité de véhiculer et de transporter les saveurs.
Tout à fait. Déjà, quand on boit une boisson pétillante, les bulles éclatent dans la bouche et ça active des mécanorécepteurs qui procurent déjà une sensation de plaisir. Ensuite, dans les boissons pétillantes sucrées de type soda, il y a également de l'acidité. Hein, et cette acidité, elle active aussi les cellules sensorielles. Mmh. Donc tout ceci procure des sensations de plaisir, tout en diminuant un peu la sensation de goût sucré, ce qui permet d'ailleurs aux gens à leur insu d'absorber des boissons qui sont extrêmement sucrées. Je rappelle que dans un litre de soda, qu'il soit au cola ou aux fruits, des boissons pétillantes, sucrées, il y a 20 morceaux de sucre. Donc si la personne buvait ces mêmes boissons sans pétillance et à température ambiante, elle serait vite écœurée. C'est une quantité de sucre
phénoménale. On va faire un essai avec un Fanta orange, un Orangina, par exemple.
Voilà.
Un 7-Up.
Oui, alors justement. Alors attention à ces boissons amères, type Schweppes ou 7-Up, parce que là-dedans, il y a de la quinine. Et la quinine déclenche de l'amertume. Et cette amertume va camoufler le goût sucré. Vous voyez qu'au sein d'un aliment ou d'une boisson, il y a plusieurs saveurs qui peuvent soit se renforcer, soit s'antagoniser.
Genre, personne ne dira qu'un Schweppes, d'un Schweppes que c'est sucré, par exemple.
Non. Non, non, il dira c'est amer, on aime ou on n'aime pas, mais il ne se rend pas compte qu'il consomme 7 morceaux de sucre à la canette.
Oui, donc ça c'est important. Faites le test, hein, vous verrez, et vous verrez que le Fanta sans bulle, oui. Et à température ambiante.
Ah, tout à fait.
Il y a ce qu'on appelle les gens, et vous l'avez peut-être entendu autour de vous, il y a des gens qui vous disent « moi je suis plutôt sucré, moi je suis plutôt salé ». Donc ça, ça se détermine à quel moment, et est-ce qu'on peut inverser la tendance?
Oui, alors, les becs sucrés, par exemple, probablement qu'à l'origine, ils ont des récepteurs particulièrement sensibles dans la bouche. Ça, c'est une partie de génétique. Après, il y a une partie d'éducation. Hein. Des enfants, par exemple, qui ont été habitués pendant leur enfance à boire sucré, à manger sucré, par la suite seront toujours attirés par le goût sucré pour calmer les émotions négatives. Mmh. Hein. Ça, c'est classique. Bon, après, les becs sucrés sont aussi des gens qui peuvent entretenir cette appétence au goût sucré en travaillant les différents goûts sucrés. Il faut savoir que notre récepteur au goût sucré, il a plusieurs petits sites. Et chacun de ces petits sites peut capter plein de molécules au goût sucré. Il y a le site du glucose, il y a le site du fructose, il y a le site du saccharose, il y a le site des édulcorants. Et le site des édulcorants,
mais
par exemple...
Mais l'édulcorant, c'est pas du sucre.
Ah ben, il déclenche un goût sucré. Donc, il se fixe aussi sur les récepteurs du goût sucré.
C'est pour ça que penser qu'on trompe l'organisme, c'est une erreur.
Non, on le trompe vraiment.
Ah, on le trompe vraiment ?
Oui, parce que l'édulcorant va se fixer sur l'un des sites du récepteur au goût sucré. Donc, le cerveau va recevoir le message que quand on mange l'édulcorant, il y a le goût sucré. Seulement, le cerveau est un peu perturbé, parce que d'ordinaire, quand il reçoit ce message de goût sucré, eh bien, il y a le glucose qui arrive dans le sang, il y a le fructose qui arrive dans le sang. Bref, il y a derrière quelque chose qui arrive sur le plan métabolique. Donc, il s'attend à ce qu'il y ait des calories qui arrivent. Et donc, lui, il s'y prépare. Tandis que là, avec un édulcorant, il reçoit le message du goût sucré, puisque l'édulcorant va se fixer sur le même récepteur que le sucre, hein, et donc il va activer ce même message. Par contre, le cerveau comprend rien parce que le glucose, il n'arrive pas, voyez. Donc ça peut le perturber. Ça peut le perturber. On n'en connaît pas encore les conséquences et l'impact que ça peut avoir sur la santé métabolique, mais c'est la raison pour laquelle les édulcorants, ça peut être utile chez quelqu'un qui veut maigrir et qui est vraiment tellement attiré par le goût sucré que c'est très difficile pour lui ou elle
de
manger
privé.
Un yaourt nature ou un fromage blanc comme ça sans rien. Donc moi, je leur conseille toujours de mélanger avec des fruits. Comme ça, les fruits apportent le goût sucré, se mélangent au laitage et ça passe bien. Mais parfois, ils ont envie d'avoir un yaourt édulcoré. Quand c'est un édulcorant, on peut petite quantité, il n'y a pas de problème. Par contre, de là à boire des sodas édulcorés à longueur de journée, au motif que c'est zéro calorie et zéro sucre, certainement non.
Laurence Plumet est avec nous. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire au standard 01 53 48 3000. On parle de goût ce matin, vous l'avez compris, jusqu'à 10h, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Laurence Plumet, qui est notre invité, nous parlons du goût et des dégoûts ce matin. Et vous posez vos questions 01 53 48 3000. On va accueillir Malika qui est avec nous. Malika, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour. J'ai oublié son nom.
Alors, docteur Laurence Plumet.
Bonjour Laurence. Voilà, moi je ne sais pas si c'est vraiment le thème. J'ai 57 ans.
Oui.
Et bon, je suis pas salée ni sucre. Mais des fois, j'ai des fringales. Et bon, j'entame un régime et j'arrive bien à perdre. Mais après, je craque.
Mmh. Oui.
Vous craquez, c'est... combien de temps après?
On va dire au bout d'un 3 semaines. Mmh. En plus, pourtant, j'ai arrêté toutes les boissons. Je ne bois plus aucune boisson, je ne bois que de l'eau.
Mmh. Quand vous dites boisson, on imagine que c'est les boissons dont on parlait tout à l'heure, les boissons pétillantes,
voilà.
Et sucrées, d'accord,
voilà.
Alors, vous savez, il y a une trilogie entre les aliments, ce que vous mangez, le cerveau et les émotions. Quand vous vous privez de quelque chose, vous augmentez, c'est humain, hein, vous augmentez encore plus l'envie de cette chose-là. C'est bien connu d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle maintenant on arrête de prescrire des régimes trop sévères, car il n'y a pas mieux pour donner envie à quelqu'un de manger que de le priver de nourriture. C'est pareil avec vous, vous étiez attiré par le goût sucré, on vous a dit du jour au lendemain d'arrêter de maigrir, vous avez tenu quelques temps, mais au bout d'un certain temps, cette envie revient, et encore plus forte, comme une vague, comme une vague. Donc l'idéal, ça n'est pas de s'en priver pour avoir envie encore plus après, c'est de garder une petite consommation raisonnable, puisque nous sommes tous pensés pour aimer le goût sucré. Donc il n'y a aucune raison d'interdire le sucre pour perdre du poids, il faut simplement en contrôler la consommation. Voilà, tout simplement.
Excusez-moi, je vous coupe la parole. C'est surtout, vous savez, question pâtisserie, tout ça, ça me donne plus envie. Mmh. Mais c'est au moment c'est le grignotage que j'ai envie de sucre. Voilà.
Oui, bien sûr. Après, on peut pas faire comme ça de consultation à la radio, mais le grignotage, l'envie de manger sucré, ça peut venir de plein de choses. D'abord, comme je le disais, il y a les émotions, il y a la culture. Les gens qui ont été habitués dès leur enfance à manger sucré pour calmer une émotion négative vont reproduire ce même schéma-là par la suite à l'âge adulte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les hypoglycémies. Quand vous mangez trop peu au repas, votre glycémie baisse et ça vous donne envie de manger sucré. Ensuite, il y a les hormones. Les récepteurs au goût sucré sont très sensibles aux hormones. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes enceintes, comme les femmes qui prennent la pilule ou comme les femmes qui vont avoir leur menstruation, dans les jours qui précèdent l'arrivée de la menstruation, elles le disent clairement, elles ont envie de manger sucré. Donc, vous voyez, ces récepteurs-là sont finalement soumis à beaucoup d'influences. Il y a la réalité du récepteur, il y a le nombre de récepteurs, il y a la génétique, il y a aussi l'éducation, il y a l'environnement, il y a la restriction, il y a les hormones. Vous voyez, il y a plein de mécanismes qui vont interférer. Mais honnêtement, je vais vous dire, le meilleur moyen de maigrir, c'est de continuer de manger d'une façon équilibrée, contrôlée en gras et en sucre, bien sûr, mais sans s'interdire tout ça. Mais surtout, ce qu'il faut faire également à côté, c'est bouger, faire du sport. Oui. Bah, c'est très difficile de maigrir si on reste sédentaire. Il faut obliger le corps à brûler des calories, sinon il va s'adapter à vos faibles apports alimentaires et il va lui-même baisser ses propres dépenses. Et au bout d'un certain temps, vous n'arriverez plus à maigrir. Donc il faut augmenter absolument les dépenses caloriques du corps humain et il faut également bien dormir parce que le manque de sommeil, ça empêche de maigrir. D'où la nécessité de prendre soin de soi sur le plan de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, d'où la légitimité de ce nouveau métier qu'est le napsothérapeute qui intègre les trois domaines dans ses conseils. Voilà, bonne chance, vous allez y arriver.
Bougez, Malika.
Et voilà, il faut que vous soyez active.
On va se mettre au sport, peut-être que
absolument. Mais
merci,
vous verrez, au début c'est difficile et après vous ne pourrez plus vous en passer.
C'est gentil à vous, merci beaucoup.
Hein. Gros bisous Malika, et on accueille Karim qui est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour Karim. Monsieur.
Excusez mon essoufflement, je suis en train de faire du sport.
Vous faites du sport en écoutant AVS?
Oui, c'est justement pour éliminer le sucre.
Ah oui, mais vous
avez
raison.
Je sais pas si c'est la bonne recette, mais en tout cas moi je le conçois comme ça. Moi, j'ai pas de problème de poids, hein. Je mesure 1m75 sur 75 kilos. Donc, je suis à peu près normal, quoi. Mmh. Mais alors, moi, ce problème, c'est que je n'ai pas envie de sucre, mais uniquement à la fin du repas. Dès que j'ai fini mon repas, si je mange pas un gâteau ou du chocolat, ou je sais pas, mais quelque chose de sucré, ça va pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose.
Oui, alors, votre remarque...
Je n'arrive pas à lutter contre ça.
Oui. Mais votre remarque est très intéressante parce que finalement, les goûts changent au fur et à mesure du repas. Au début du repas, nous sommes plus attirés par le gras et le salé. Quand on a faim, si je vous apporte une bonne choucroute ou autre chose, vous allez adorer. Quand vous avez faim, vous allez en manger beaucoup. Et puis, au fur et à mesure que vous êtes rassasié, vous avez un dégoût du gras et du sel qui s'instaure. Si je vous sers une choucroute au dessert, ça ne va pas le faire. Par contre, l'appétence au goût sucré se réveille parce que vous avez été habitué depuis l'enfance à terminer votre repas par une petite douceur sucrée. Donc, pour votre cerveau, le goût sucré au dessert, ça signifie point, c'est la fin du repas. Tant que vous n'avez pas eu votre petite douceur sucrée, pour votre cerveau, le repas n'est pas forcément terminé. Et il faudra à un moment donné que vous mangiez quelque chose de sucré pour mettre un point au bout de la ligne. Voilà. C'est une question d'habitude.
Oui.
Mais vous savez, on a toujours l'impression de maîtriser soi-même ses comportements, mais il y a ce que j'appelle l'inconscient métabolique, c'est le cerveau qui nous dirige.
Voilà. Oh ben mais j'ai bien conscience. Mais je voulais vous demander une dernière chose. Je voulais savoir, est-ce que le fait de ne pas manger le midi, ce qui est mon cas, pour deux raisons, d'abord parce que souvent j'ai pas le temps, et même quand j'ai le temps, j'évite de manger, est-ce que c'est bien ou pas?
Non, honnêtement, ça n'est pas une très bonne chose. Il faut suivre, il faut respecter la physiologie du corps humain et de ses besoins. Le déjeuner, c'est un repas qui est en milieu de journée. Vous avez déjà vécu toute votre matinée. Vous allez vivre encore 8 heures avant le dîner. Votre corps, c'est une usine qui fonctionne en permanence. Et c'est la raison pour laquelle le déjeuner représente idéalement 40% des calories dont vous avez besoin de la journée. 40%.
Mais là, Karim, ça fait combien de temps que vous ne déjeunez pas?
Ça doit faire une dizaine d'années parce que j'ai remplacé, j'ai remplacé le repas du midi par du sport.
Oui. Bien sûr.
Personnellement, je trouve que je suis gagnant parce que j'ai faim à la fin de mon sport, mais un simple café au lait, c'est bon, la faim est coupée.
D'accord. Alors là aussi, pas de consultation au téléphone. Ce qui serait intéressant de voir, c'est la quantité d'aliments et la nature des aliments que vous mangez sur la journée entière. Parce que même si vous avez la sensation d'être bien sur le plan corporel, la santé, ça n'est pas qu'une histoire de poids. C'est aussi le fait d'apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Et peut-être sans le savoir que vous avez des carences. Carence en calcium parce que vous ne consommez pas assez de produits laitiers. Carence en vitamine C parce que vous ne mangez pas assez de légumes. Mmh. Le fait de réunir vos trois repas en un seul en fin de journée, finalement, ça diminue les possibilités pour vous de couvrir tous vos besoins. Donc c'est pour ça qu'en les multipliant dans la journée, avec un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, vous augmentez vos chances de couvrir. Alors après, les études montrent que c'est bien aussi de les rassembler sur un temps court. Hein. C'est-à-dire que petit déjeuner tard, déjeuner et dîner tôt. Voilà, rassembler les prises alimentaires sur un temps court, de façon à jeûner plus longtemps possible, avec une nuit prolongée. Ça c'est bon. Et continuez de faire du sport, parce que comme vous l'avez dit très justement, les muscles captent le glucose. Donc c'est parfait.
Amitié à Karim qui fait sa gym. Merci. Bilal est avec nous au 01 53 48 3000. Bilal, bonjour et bienvenue. Bilal.
Bonjour docteur. J'ai une petite question s'il vous plaît.
Oui.
En fait, moi, le souci, c'est que j'arrive pas à prendre du poids. J'arrive pas à grossir. J'ai pas l'appétit et je mange un petit bout et j'ai plus faim en fait.
Un petit appétit, vous, Bilal?
Ouais, un petit appétit. Je faisais 1m76 et je pèse à peine 60 kilos, 58, 59. Et depuis 3-4 ans, c'est toujours le même poids. Et du coup, je veux savoir ce que...
Alors, ce qui est intéressant dans ce que Bilal dit, c'est qu'on a beaucoup plus d'appels de personnes qui nous disent « je mange trop » que de gens qui disent « je n'arrive pas à prendre du poids », mais la souffrance est un peu la même, hein, Laurence.
Oui, bien sûr. Alors, les histoires de poids, là aussi, hein, c'est une consultation entière. Quand on est un bon médecin, on prend son temps pour comprendre les raisons d'un poids un peu faible. Il y a des gens qu'on appelle des maigres constitutionnels, c'est-à-dire que toute leur vie, ils seront maigres et ils auront du mal à prendre du poids. Les gens qui sont en surpoids les envient, et eux, ils envient ceux qui ont plus de kilos. Vous voyez, sur cette terre, on n'est jamais content. Et puis, il y a des gens qui ont perdu du poids pour des raisons X. Ça peut être une maladie, ça peut être... Voilà, donc il faut déjà faire un check-up médical. Il faut en parler à votre médecin si vous avez l'impression d'avoir maigri récemment. Ça n'est pas normal. Donc, il faut faire un check-up médical. Il faut aussi tester la thyroïde. Parce que vous avez des gens qui, par exemple, sont maigres, mais parce qu'ils ont une thyroïde qui fonctionne un peu trop vite. Donc, de toute façon, quand on n'est pas content de son poids, de son corps ou de sa santé, il faut en parler au médecin. Et déjà, il faut faire un bilan complet. Quand le bilan est complet, ce que je vous souhaite est qu'il est normal, eh bien, tant mieux, tout va bien. Et dans ce cas-là, bon, bah, il y a des conseils à donner. Là aussi, je ne peux pas faire une consultation au micro, mais plus vous fractionnez votre alimentation, plus vous mangez régulièrement tout au long de la journée des petites quantités, en variant évidemment, il ne s'agit pas de vous gaver de gras et de sucre, hein, et de bouffer plein de pain au chocolat au motif qu'il faut prendre du poids, mais en mangeant varié, mais de façon fractionnée, vous augmentez vos chances de prendre un petit peu de poids. Mais encore une fois, le poids, ça ne veut pas dire la santé. Hein. La santé, ce n'est pas un chiffre sur la balance. La santé, c'est un tout. L'essentiel, c'est que vous soyez en bonne santé.
Est-ce que Bilal, vous vous sentez et est-ce que vous êtes en bonne santé?
Oui, je suis en bonne santé. D'ailleurs, je travaille même dans la restauration. Et je mange avec les yeux, en fait.
Bah, c'est, vous avez peut-être répondu à votre question, en fait.
Ouais.
Bilal. C'est parce que vous mangez avec les yeux, en fait.
Je vous jure, je vois un plat, je vois mes collègues qui se régalent et tout, j'ai envie de faire la même chose, mais je regarde avec les yeux, ça y est, j'ai...
En fait, Bilal, vous saturez vite.
C'est
vous
ça.
Vous saturez vite. Hein?
C'est ce qu'on disait
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, vous saturez vite. Et donc, c'est pour ça que le fait de fractionner et de manger plusieurs fois dans la journée, pour, ça peut être un bon moyen, finalement, pour vous, de prendre un petit peu de poids. Mais en mangeant des choses saines, évidemment.
Bon, merci pour votre appel, Bilal. On rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours que vous lancez un diplôme de napsothérapeute, Laurence, en septembre. C'est sur 9 mois, la formation.
Oui, tout à fait.
Donc, pour tous ceux qui voudraient se diriger vers cette nouvelle spécialité.
Oui, c'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire que quand on a bien suivi cette formation, qu'on a bien suivi les cours, qu'on a validé ses examens, tout se fait à distance, eh bien on a son diplôme de napsothérapeute et on peut exercer. On exerce en libéral, on reçoit des gens, c'est de la prévention. Hein. Attention, il ne s'agit pas de prendre en charge des gens malades. Mmh. Il s'agit de prendre en charge des gens qui ne sont pas bien, hein, qui n'ont pas de légitimité à aller voir un médecin. Ils ne sont pas bien, ils ne dorment pas, ils ne bougent pas assez, ils ne mangent pas bien, ils ont quelques kilos à perdre. Mais à qui peuvent-ils s'adresser? Eh bien, dorénavant, ils vont s'adresser au napsothérapeute. Donc, la personne qui veut suivre cette formation, qu'elle m'appelle, on en discute et je vois si je peux l'intégrer dans mon programme de formation pour en faire un napso ou une napsothérapeute. J'ai beaucoup de femmes d'ailleurs.
Bien, merci Laurence Pumet d'être venue à pied jusqu'à chez nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Laurence.
Merci infiniment.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.